Alors, on est avec deux jeunes Africains, l'un de la Côte d'Ivoire, l'autre du Mali, qui sont actuellement dans une bagarre épouvantable à Cachan, complètement fatigués parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils font des tours de veille dans leur gymnase là-bas. C'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on est quelques-uns qui ne dorment pas, qui fait la surveillance de 24 heures sur 24 heures parce qu'on a été attaqué avant-hier par les forces de l'ordre. Donc, il y a eu 7 blessés. Il y a un policier qui a été blessé légèrement. Bon, il y a eu des moments aussi qu'ils ont été saccagés, qu'ils ont été chargés par les forces de l'ordre. Donc, nous, on en a mal. Bon, on attend que le maire qui nous dit bon, qu'il en a mal aussi. Bon,
qui le maire bon,
le maire, parce qu'il dit qu'il craint par les élections qui viennent. Le préfet sort le jugement fini aujourd'hui que et si le préfet gagne, qu'on sera chargé par les CRS. Donc nous, on est là, on attend que si vraiment que les forces de l'ordre viennent au gymnase, il y aura trop de morts. Parce que tout le monde est déterminé, parce qu'on en a mal. Je préfère aujourd'hui mourir de cette situation que je suis dedans. Parce que je ne dors pas, je ne mange pas bien, je ne prends pas de douche. Bon, il n'y a pas d'intimité entre nous là-bas. Les femmes sont là, on partage les mêmes douches que les femmes. Tu arrives, il y a une femme qui est déshabillée, tout nul, tu retournes. On fait la queue, 2 toilettes pour 200 personnes, 6 douches pour 200 personnes. C'est incroyable.
Nous, on est venus avec des visas. Et on est accepté d'avoir des papiers, mais on n'est pas accepté d'avoir des maisons pour dormir. Voilà, donc vraiment, ça fait mal. Et c'est difficile à digérer, quoi. C'est quelque chose que la France doit penser que ces personnes-là, ils ont laissé leur langue. Ils font tout dans notre langue. Ça, c'est quelque chose, ils doivent penser à ça. Ils ne pensent pas à tout ça, ils pensent à avoir, tu sais que je vais avoir, comme chez nous, ceux qui sont là-bas, des corrompus là. On parle des corrections, mais ici, ce sont eux-mêmes qui nous apprennent à faire la corruption. Nous qui sommes les fils d'éleveurs, c'est nous qui sommes fatigués. On se débrouille pour venir en France, parce que si on n'est pas sorti de chez nous, on ne va pas sortir de la misère. On sait très bien que nous sommes venus pour prendre des revanches. On va retourner. On ne va pas mourir ici. Moi, je ne suis pas venu pour rester en France ici. Mais je suis venu pour me préparer en France ici. Parce que si tu n'as rien, tu ne peux même pas te préparer. S'il s'agit de préparer, c'est financièrement. Donc, je sais très bien que ceux qui sont là, ceux qui travaillent même dans l'ambassade ici, ceux qui travaillent même dans le consulat ici, ils n'ont aucun diplôme. Ils n'ont même pas de BPC. J'ai vu des gens, ils n'ont même pas de BPC. Ils travaillent. Et nous, qui ont même des diplômes, qui sont sortis comme ingénieurs même, qui tournent là-bas au pays, ils n'ont rien à faire. Il s'assoit, il fait éditer, après ça, c'est fini. Tu tournes fatigué, tu n'as pas de boulot. Mais il faut être un fils de papa pour avoir boulot au Mali.
À la colère de deux jeunes Africains, Séméga Gawazosi du Mali et Pozo Inza de Côte d'Ivoire, qui étaient avec nous hier au musée du Quai Branly. Le comité de soutien à ceux de Cachan, c'est www.squatcachan.ras.eu.org. Si vous voulez noter, je le répète, www.squatcachan tout attaché, .ras.eu.org. Il y a une pétition en ligne, il y a un appel à soutien financier. Dans le gymnase dans lequel ils se trouvent, ils ne sont plus autorisés à faire de la cuisine. Ils sont environ 200 et avec 80 enfants. Il existe un comité de soutien de ceux de Cachan. Donc vous pourrez retrouver en ligne les coordonnées de ce site pour les soutenir. Voilà, des messages sur le répondeur de la base où je suis maintenant au 01 56 40 37 37.
Que de bonnes nouvelles dans nos journaux. Premier miracle. Lors de son récent voyage aux États-Unis, Nicolas Sarkozy a grandi de 20 cm. Au moment où, plein d'exaltation, il serrait la main de George Bush. Voir les détails dans le Canard enchaîné de cette semaine. Deuxième miracle, Isabelle Adjani a rajeuni de 30 ans. Voir les photos dans le magazine Elle de cette semaine, que l'on ne remercie pas pour la cause des femmes de 50 ans. Et comme jamais 203, troisième miracle, Jean-Marie Le Pen fait sa révolution. Au retour de son déplacement à Valmy, il a lu le texte du discours que Benoît XVI a prononcé à Ratisbonne. Emballé, Le Pen annonce qu'il se convertit à l'islam et qu'il se retire à Nauphe-le-Château ou à la Trinité.
Oui, bonjour, c'est les lycéens de Nevers, dans la Nièvre. Nous nous battons actuellement contre l'expulsion d'une de nos camarades, Susanna et de sa famille, qui est arménienne et qui travaille très bien, qui est en terminale au lycée Raoul Follereau. Les flics l'ont arrêté mardi matin sur le chemin du lycée. Et donc, voilà, ils veulent l'expulser, on se mobilise, ils veulent l'expulser pour faire des voix, le préfet veut rien entendre du tout. Et donc, on trouve ça dégueulasse. Et on voudrait dire au préfet et à Sarkozy qu'on se battra de toutes nos forces. On n'est pas des pacifistes, on est en guerre contre le fascisme. Voilà, merci. C'était Alban Préau à Nevers.
Et ça, c'est pas sur la radio, là?
Salut Daniel, c'est Stéphane, 22 ans, bijoutier à Rouen. J'ai entendu en fin d'émission cet après-midi des choses qui m'ont franchement étonné. Sur 50 000 ronds-points qui existent dans le monde, 25 000 se trouvent en France. Je trouve que franchement, ça laisse à réfléchir.
Bonjour, Paul Le Repère de l'île de Groix. Il y a encore les gens qui ont un petit peu de mal à nous trouver. Alors, on n'est pas sur le port où on arrive, on n'est pas dans le bourg, on est sur la plage de Locmaria. C'est le bateau ivre, le café. Et on peut le trouver même dans la tempête, c'est possible, il y a tempête en ce moment. On est là pour faire les discussions ensemble, échanger des idées, les propositions, les décisions. Bref, on est ouverte à tous les possibles, avec les gens qui soient auditrices ou non de l'émission. Voilà, c'est à 9h ce soir, au bateau ivre, île de Groix. Au revoir.
Bonjour, c'est un message pour tous les AMG de la région Saint-Malo, Dinan, Dinard, pour rappeler que le repère aura lieu le mardi 26 septembre à 20h, toujours chez Pierrot et Marie, au pénalty à Ploubalet. Donc, mardi 26 septembre, 20h, au pénalty à Ploubalet. Merci aux AMG, à bientôt.
Oui, mais alors là, pour le coup. Oui, mais alors là, pour le coup. Oui, mais alors là, pour le coup. Marchand de canon.
Merci, Daniel Mermet, pour tes deux émissions sur Marseille. La Damotte, chochotte pour les Parisiens, qui contestait le mélange et le brassage des peuples de rue de la République, mentait. Une véritable bédigasse, comme disait ma grand-mère, une niaise si tu préfères. Oui, il y avait un véritable brassage de races et un mélange de petits peuples et de bourgeois moyens. Des expulsés des vieux quartiers Saint-Jean, des napolitains, génois, turcs, grecs, arméniens, corses, sénégalais, tonkinois, annamites, japonais, levantins des échelles du Levant, etc. Bref, le monde entier s'y mélangeait. J'ai connu des capitaines au long cours, des commerçants de la rue de Rome et de Saint-Fé, sans oublier les boîtes de nuit pour marins en escale et bien sûr le milieu marseillais. On trouve des rats partout dans Marseille, car c'est un port de commerce et comme dans tous les ports du monde qui transbordent des denrées, il y a des rats. Même dans le quartier chic de la préfecture, on en trouve la nuit. Le jardin du consulat des États-Unis en héberge un gros bien dodu. Vu de mes propres yeux, j'en témoigne. Merci pour tes émissions qui donnent la chiasse à certains. C'est Robert de Marseille. Merci.
Voilà, une information signée Robert de Marseille suite aux deux reportages de François Ruffin à Marseille sur la l'embourgeoisement du centre de cette ville. Vous avez suivi ces deux émissions avec intérêt. Pas tous d'accord, hein. Pas tous d'accord, il faut bien dire les choses. Aujourd'hui, on va voir si vous êtes d'accord sur le sujet du jour, c'est le purin d'ortie. Vous avez entendu parler de cette histoire que le purin d'ortie, qui est une vieille préparation de nos ancêtres et qui continue d'ailleurs aujourd'hui pour nos jardins, eh ben serait interdit. Alors ça semblait complètement un gag un peu lourdeau et puis puis pas du tout, pas du tout. Il semble bien, bel et bien, qu'il s'agisse d'une loi qui a été bel et bien votée et qui verrait une loi d'orientation agricole qui a déclenché une polémique parce que cette loi rend illégale la diffusion comme la cession payante ou gratuite de remèdes phytosanitaires qui ne fassent pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Et parmi ces remèdes phytosanitaires, eh bien, il y a le purin d'ortie. On va voir qu'à travers, au-delà d'un petit, un tout petit détail, un tout petit événement, il y a des conséquences extrêmement importantes et des causes très très importantes. C'est notre reportage du jour.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation.
Une effervescence chez les jardiniers bio. Un article de la loi d'orientation agricole vient d'interdire le commerce des produits phytosanitaires non homologués. Au premier rang de ces produits, le traditionnel purin d'ortie.
Pourquoi ça pousse pas ?
Tu vas pouvoir continuer avec du purin de consoude. Puisque là, ça va favoriser tout ce qui est floraison et fructification.
D'accord. Voilà. Donc là, ça peut me coûter 4 ans de prison.
Deux ans pour le purin d'ortie et puis deux ans pour
voilà,
le...
La guerre de l'ortie est allumée.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ?
C'est des recettes de grand-mère. Je sais pas, faut peut-être tuer toutes tes grand-mères. Je sais pas. Enfin, c'est la ridicule absolue, quoi. Parce qu'on va interdire l'eau chaude pour désherber les allées du jardin. Parce que bon, c'est un produit naturel non homologué. Excuse-moi, j'ai fini le travail, ma peine. Édition de Perron, bonjour.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassy j'y suis, avec Antoine Chao, purin d'ortie.
Flight number 2.
Monsieur Mitterrand,
Bernard Bertrand, je suis ça.
Enchanté.
Bonjour.
On est Radio France
aussi. De Paris. Oui.
C'est pour quelle...
C'est pour l'émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis, à 15
de...
Daniel Mermel.
Ah, d'accord. Très bien.
Bon. Et vous, qu'est-ce qui vous amène alors?
Ah ben nous, on n'a pas parlé à laitière, on met
fait
la
voilà,
ben moi aussi. Service de contrôle.
Ah oui, d'accord. Parce que si bien compris, vous venez tout à fait pour autre chose.
On vient tout à fait pour autre chose.
C'est le hasard, alors.
C'est le...
Une perquisition, ça s'appelle. Ouais. Une perquisition de la DGCCRF. DGCCRF. La Direction Générale de la Consommation et de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Perquisition. Non, la perquisition tournera à la visite amicale. On redoutait une perquisition. Et mais si c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être pour un jour prochain, puisque cette loi existe bel et bien. Cet article 70 de la nouvelle loi d'orientation agricole qui a déclenché cette polémique ces derniers jours dans les médias, mais depuis déjà un certain temps, depuis le début de cette année, ça couvait, parce que cet article 70 donc de cette loi rend illégal, je le disais, la diffusion comme la cession payante ou gratuite de remèdes phytosanitaires qui ne fassent pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Et sont ainsi visées toutes les recettes promues par le milieu de l'agriculture biologique, tel le purin d'ortie ou le savon noir dilué. Et c'est une décision évidemment qui, dans ces milieux, est vécu comme injuste, paradoxale et assez inquiétante. On se dit, oh là là, attendez, oui, c'est des sympathiques écolos bio là-bas dans leur France profonde et babacool sympathique qui font toute une histoire parce qu'ils ont leur mythe, leur croyance, et puis voilà, vous allez voir que c'est pas si simple ni si facile que ça à juger et à repousser. D'un comme on repousse les petits cochons, c'est jusqu'à 18h. C'est Là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, purin d'ortie.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes tu ne vas pas pousser. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes tu ne vas pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé.
Toujours pas poussé.
Alors moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé.
Toujours pas poussé.
J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des nanas. L'ananas ça pousse pas.
J'ai tout essayé, le tabac, les grenades.
Grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?
Qu'est-ce qui vous vaut, a priori, une perquisition dans quelques instants?
Nous avons un livre qui s'appelle Purin d'ortie et compagnie, écrit donc par Bernard, Jean-Paul Collert et Eric Petiot, qui donne des recettes de produits phytosanitaires naturels pour soigner les plantes de son jardin, les plantes, ou les faire un peu d'engrais, soigner les plantes, empêcher les pucerons d'envahir telle ou telle récolte, etc., et dynamiser les plantes. Voilà. Et Eric Petiot a été, lui, perquisitionné il y a 2 ou 3 semaines. Bon, ça a fait un petit peu de remue-ménage dans le Landerneau. Et comme par hasard, la semaine dernière, les fraudes et la concurrence ont pris rendez-vous pour ce matin. La coïncidence m'a beaucoup troublé, j'avoue.
Alors voilà, vous rêvez pas. J'ai entre les mains et devant ce micro un bouquin qui est interdit. Ça peut pas être vraisemblable. Quand on lit la couverture du bouquin, c'est Purin d'ortie et compagnie, les plantes au secours des plantes, de effectivement Bernard Bertrand, Jean-Paul Collard et Eric Petiot, avec une préface de l'aimable, du très aimable Michel Lys, dont vous vous souvenez, sur France Inter. Et voilà, ils appellent ça l'horticulture. Horticulture, voilà, la culture des orties. Eh bien non, pas du tout. Voilà que une loi, cette loi qui donc de début de cette année, menace ces doux paysans, ces doux agriculteurs et leur volonté de cultiver sans engrais. Sans engrais, on cultive toujours avec des engrais, mais sans engrais chimique. C'est une vieille histoire, très très vieille histoire, une très très vieille résistance, mais une loi a bel et bien été votée, je l'ai sous les yeux, sont interdits la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre. Et plus loin, l'article L253-7 indique que toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article que je viens de vous lire ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations. Donc voilà tous ces gens qui font ces produits et qui font cette culture, cette agriculture et qui la défendent, se sont sentis visés. Et puis, ils ont eu raison parce qu'il y a eu ces perquisitions et ça paraît absolument grotesque. Voilà pourquoi on a eu envie d'en savoir plus.
Si vous aimez les orties, c'est l'occasion. Orties Folie, 11e fête de l'ortie et des plantes sauvages. Ça se passe au parc de Wesserling à Sangouagnet, dans la Haute-Garonne.
Une fête de l'ortie.
Oui, une fête de l'ortie. Mais l'ortie a des vertus très, très agréables.
Médicinales.
Et puis des fonctions. C'est vous que les billets de banque sont fabriqués à partir, entre autres, d'une ortie africaine.
Ah, sans blague.
Eh bien, je ne plaisante jamais quand je parle de végétal.
Ah non, je vous crois.
Ce sont des grandes orties qui atteignent 2 mètres de haut, et cette fibre végétale, on faisait des vêtements avec les orties. Non, l'ortie est une plante qui a beaucoup de vertus, simplement elle est urticante, elle pique, et c'est un peu son problème.
On en apprend tous les jours avec Alain Baraton. À demain, dimanche, Alain Baraton, le jardinier de France Inter.
À demain.
Allô?
Alain Baraton, suite à votre chronique sur la fête de l'ortie, hein, il y a quelques mois sur France Inter, vous avez reçu donc un avertissement ou une mise en garde de la part du ministère de l'Agriculture, c'est bien ça?
Oh, peut-être pas du ministère, parce que le mail n'était pas signé, mais les termes employés faisaient comprendre que la personne qui m'écrivait amicalement était compétente en la matière, ou effectivement, on me rappelait qu'à compter de juillet 2006, le simple fait de parler du purin d'ortie pouvait me valoir quelques ennuis avec les autorités de justice. Le simple fait de donner à l'antenne la recette du purin d'ortie, eh bien, me mettrait hors la loi. Sous prétexte que la nourriture pour les plantes doit faire l'objet aujourd'hui de réglementations draconiennes. Mais je crois que, comme partout, il faut savoir faire preuve de discernement et menacer une personne qui ne fait que donner une recette qui est dans tous les manuels d'horticulture, dans toutes les revues de jardinage. Je crois que c'est un petit peu excessif. Et effectivement, quand on voit la rapidité avec laquelle certains services se sont empressés de faire respecter cette loi, on est en droit effectivement de se demander si de gros intérêts financiers ne sont pas en jeu. Je crois qu'il faut être un petit peu raisonnable. Ce n'est pas parce qu'un produit aujourd'hui est considéré comme hors la loi qu'il faut interdire d'en parler. Il y va aussi tout simplement de la liberté d'expression.
France Inter.
Enfin, c'est un ridicule absolu, quoi. Et donc, dès que la loi est sortie des cartons, qu'on a pu l'appliquer, donc ils sont précipités chez Eric, là, le copain, pour... enfin, quand même, quoi. Faut pas rigoler.
Parce qu'il était co-auteur de ce livre.
Co-auteur de ce livre, en
plus. Alors, est-ce que je peux le voir, ce livre?
Parce que, oui,
quand même, c'est quelle émotion,
oui,
quoi.
Il nous en reste,
un livre
non.
Bientôt interdit.
Non, j'espère qu'on n'en viendra pas à ça. J'espère que les gens vont savoir raison garder, quand même. Alors voilà, c'est
Bernard Purin. Bertrand, Jean-Paul.
Jean-Paul Collert. Voilà, Eric Potiot. Tu vois, il a vraiment l'air d'un terroriste.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Anne-Jeanne Bertrand. La femme de Bernard, et qui est en train de préparer des purins d'ortie sur cette photo, voilà.
Une activité hautement illicite, quoi.
Et bien, depuis peu de temps, oui, apparemment.
Pourtant, elle est même pas masquée sur cette photo.
Et voilà, Bernard, donc, qui arrive d'un pas vif, voilà.
D'accord, donc tu es l'un des auteurs.
Je suis l'un des auteurs, voilà. Moi, je suis écrivain paysan et j'écris des livres depuis une dizaine d'années maintenant sur les savoirs populaires et sur les savoirs traditionnels et sur la transmission de toutes ces recettes de grand-père et de grand-mère qu'on a accumulées au fil des générations et que nous, bien sûr, on améliore, hein, parce que les savoirs populaires, c'est fait pour évoluer. Il faut que ce soit vivant. On y apporte notre petite touche et Purin d'ortie et compagnie en est un très très bel exemple puisque effectivement l'empirisme que l'on connaissait sur ces produits produits-là, mais on est allé bien au-delà et aujourd'hui on a méthodiquement mis au point des recettes qui sont bien plus fiables que celles que faisaient nos grands-pères, mais au départ on est parti de leurs recettes.
Un chariot passe, donc chargé de bouquins qui partent déjà au pilon ou
pas encore au pilon, hein, le livre n'est pas interdit. Hein. C'est tout à fait surprenant de savoir que ces écrits, qui sont effectivement un patrimoine commun, c'est notre mémoire collective à nous tous, sont effectivement aujourd'hui des écrits subversifs. Alors là, j'étais loin de m'imaginer ça il y a quelques années quand j'ai commencé ce travail d'écriture.
Alors tout ça, c'est suite à une loi donc votée en début d'année.
Alors. Loi d'orientation agricole, votée le 5 janvier 2006. On essaie de savoir un petit peu dans quelles circonstances cette loi a été votée, parce que je pense qu'elle a été votée en catimini, c'est une évidence. C'est une loi inquiétante à plus d'un titre. D'une part, déjà, elle remet en cause les 4 ans de discussion qu'on avait eues, nous, en tant qu'association des Amis de l'Ortie, avec les pouvoirs publics, qui avaient abouti à l'élaboration d'un rapport qui exprimait clairement nos demandes et qui précisait un petit peu justement comment on devait traiter ces produits que sont le purin d'ortie ou les extraits de plantes. Deuxième point extrêmement important, cette loi, elle prétend interdire toute promotion commerciale, ça se comprend à la limite, pourquoi pas, il n'y a pas grand chose à dire, mais aussi toute communication sur ces produits-là. Et là, effectivement, c'est un terme extrêmement grave. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics se retranchent sur l'interprétation de la loi, soi-disant qu'on en ferait une interprétation abusive. Véritablement, c'est une action contre la transmission du savoir. Et c'est véritablement une atteinte directe à la liberté d'expression.
Est-ce que c'est vrai que autrefois, il y a très longtemps, au lieu de brûler les livres, les pompiers éteignaient les incendies?
Votre oncle a raison de dire que vous êtes stupide. Éteindre les incendies, quelle idée!
C'est quelqu'un qui me l'a dit, alors vrai ou faux?
Oh, voyons, c'est insensé. De tout temps, les maisons étaient fugées.
Pas la nôtre?
Eh bien, c'est une faute grave, elle devra être signalée. Et être démolie ensuite. Il faudra en habiter une qui soit fugée.
On verra ça. Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres?
Comment? Ah, eh bien, c'est un métier excellent, un métier plein de diversité. Le lundi, on brûle Miller, le mardi, Tolstoï, une autre fois Shakespeare, puis c'est Faulkner, et un samedi, ce sera Schopenhauer et Sartre. Les réduire en cendres et brûler les cendres, voilà notre slogan officiel.
Je vois que vous n'aimez pas les livres.
Aimez-vous l'orage?
Oui, j'adore l'orage.
Moi, je dis que les livres n'ont aucun intérêt. Ils se contredisent tous.
Alors, je ne comprends pas pourquoi on les lit, puisque c'est si dangereux.
Précisément parce que c'est défendu.
Pourquoi est-ce que c'est défendu?
Parce que les livres ne font que du mal.
Vous croyez vraiment ce que vous dites?
Oh oui. Ils troublent l'ordre public, ils empêchent le progrès social.
Est-ce que je serais antisociale?
Pourquoi dites-vous cela?
De chez mon père, il y a un jardin, il y a un jardin.
Derrière de chez mon père, il y a un jardin, il y a un jardin.
Il y a des carottes, mais aussi des lapins. J'entends bien le gnac-gnac du lapin dans le jardin quand tout va bien. J'entends bien le gnac-gnac du lapin dans le jardin quand tout va bien.
J'entends bien le gnac-gnac du lapin dans le jardin quand tout va bien.
T'as vu que cochon et moi adorent.
Et l'ortie, tu la prends à pleine main, toi.
Oui, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude, effectivement, on sent plus trop la piqûre. C'est plus une sensation de chaleur que de piqûre, c'est vrai.
Allez. Vous êtes arrivé ici en quelle année?
Alors, fin 76, moi, et on s'est installé en 77 officiellement sur la ferme de Terran. On a commencé à défricher à cette époque-là. Et ensuite, notre installation agricole a débuté début 80. J'étais fils d'agriculteur et j'ai subi 7 ans d'études agricoles, subi parce qu'effectivement je partageais pas du tout l'opinion de mes professeurs qui voulaient m'apprendre la liste des produits chimiques utilisés en arboriculture ou en maraîchage, ça me plaisait pas du tout. J'ai essayé de leur faire admettre qu'on
puisse cultiver autrement. Je demandais à ce qu'on aille visiter des fermes bio qui à l'époque existaient déjà. Hein. Les pionniers de la bio, ça date pas d'hier, loin s'en faut. Mais c'était effectivement complètement impensable. Pour eux, la bio, c'était l'agriculture archaïque. Or, c'est pas ça du tout, puisque ce sont des techniques naturelles qui sont travaillées, qui sont évoluées, qui sont abouties, quoi. Je subissais les cours, mais j'ai jamais rien appris de tout ça, quoi. Mais effectivement, tous mes petits camarades qui ont fait le lycée agricole avec moi à cette époque-là, donc dans le début des années 70, effectivement, ils ont subi plein pot toute cette formation, et aujourd'hui, ils sont obligés de tout remettre en cause, et c'est très difficile pour quelqu'un qui a passé sa vie avec des certitudes, effectivement, de se dire, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé toute ma vie, on m'a trompé toute ma vie, on m'a raconté des bêtises, les produits qu'on me faisait utiliser hier, dont on me disait qu'ils étaient des produits miracles qui allaient permettre de sauver la France et l'agriculture française. Aujourd'hui, on m'apprend que j'ai utilisé des produits qui ont empoisonné la société civile française et aussi l'agriculteur lui-même.
Voilà, c'est Bernard Bertrand qui parle, c'est le président de l'association des Amis de l'Ortie, il est le co-auteur du bouquin litigieux Purin d'Ortie et compagnie, avec d'autres auteurs, Jean-Paul Collard et Eric Petiot, et pour eux, évidemment, ils sont persuadés que derrière cette loi, eh bien, il y a l'industrie chimique, l'industrie phytosanitaire qui a, par des opérations de lobby, pousse au choix de ces lois et c'est pas forcément un paranoïaque, hein, c'est pas forcément voir un complot. Vous vous souvenez des reportages qu'on a fait à Bruxelles sur les lobbies, on a vu la puissance, la force, la puissance financière aussi de ces lobbies et qui pousse bien sûr à de telles lois. C'est une querelle, une polémique déjà ancienne, des pressions anciennes déjà sur, notamment sur ce domaine de l'agriculture. Alors dans ce petit endroit tout à fait béni des dieux où nous sommes avec Antoine à Saint-Guinguette, ça s'appelle Saint-Guinguette, c'est ça? Voilà, on me fait signe que j'ai bien prononcé. C'est dans le Piémont, c'est près de Saint-Gaudens, c'est à une heure au sud de Toulouse. Et là aussi, on fait de la radio.
Radio Maïs, la radio qui pousse le maïs.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Ours et la Carotte, votre émission sur l'environnement de Radio Maïs. Et aujourd'hui, printemps oblige, nous allons vous parler des bases pour avoir un jardin écologique. Oublions un peu un siècle, le 20e, qui à coup d'engrais et de pesticides a pollué nos eaux, fragilisé nos plantes et causé des maladies souvent graves à ceux qui les ont utilisées. Penchons-nous plutôt sur ces recettes de grand-mère qui ont fait leur preuve d'efficacité et qui sont là pour nous aider à jardiner et manger plus sain et également faire de substantives économies.
Radio Maïs, la radio qui fait pousser le maïs.
Voilà, bon jardinage et adichat à tous, porta douce plat et pince à plat à nous cette planète, per nous te maïna, te maïna, te maïna, te maïna, te maïna, te maïna.
Nicolas Saint-Martin, je m'occupe un petit peu d'écologie par le biais d'associations et j'essaie aussi de faire passer sur les ondes de Radio Maïs. J'ai une émission sur l'environnement où j'essaie de promouvoir un petit peu une nouvelle société, un nouveau monde.
On n'est pas n'importe où ici, donc la guerre de l'ortie est à nouveau déclarée. Ici, on est vraiment dans un terrain où il y a des résistances ancestrales, plus ancestrales que le purin d'ortie peut-être, non?
Oui, les Pyrénées ont de tout temps été une terre de résistance contre des lois édictées par Paris. Et depuis toujours, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle, on trouve des villages de montagne qui résistent à l'état centralisé de Louis XIV en retenant des prélats. On trouve au XIXe siècle la guerre des demoiselles, c'est-à-dire que l'État avait décidé de planter des arbres dans des pâturages et les hommes se déguisaient la nuit en femmes pour aller arracher ce qui était planté le jour. Donc ça a donné, il y a eu de grands épisodes dans les Pyrénées de résistance à l'uniformisation par la langue aussi, hein. Il y a eu très longtemps quand même des parlers qui sont restés en place. Donc oui, terre de résistance, les Pyrénées résisteront et utiliseront du purin d'ortie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a une tentative de mainmise sur le vivant. On veut faire en sorte que tout soit marchandise. Effectivement, on veut tout pouvoir breveter. Donc, on isole une molécule. Si les agrochimistes peuvent isoler une molécule du purin d'ortie, ils vont le faire, ils vont le breveter. Et après, on n'aura effectivement plus le droit de faire son purin d'ortie soi-même, si on n'est pas sur nos gardes, si on n'est pas vigilant.
Ouais, mon grand-père, c'était lui qui s'occupait de... On a une vigne pour notre consommation personnelle et toute cette génération a été convaincue des bienfaits de l'agrochimie et de ses résultats. Ils ont vu quand même que c'était beaucoup moins de travail en moins et le coût de la main-d'œuvre étant excessif, ça a été la seule issue possible. Faut voir que c'est le consommateur aussi hein, qui est acteur dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on a voulu des produits calibrés, on a voulu des pommes belles sans aspérité, mais oui, ben ce sont les agriculteurs qui ont payé certainement les pots cassés, mais je peux pas dire que mon grand-père est mort à cause de ça, mais il est possible qu'il y ait un lien, oui.
L'un des gros drames de l'agriculture, je suis fils d'agriculteur aussi, ça a été effectivement de perdre très très vite leur indépendance. C'est cette aberration-là qui aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui du monde agricole, c'est-à-dire une profession complètement exsangue, à la merci qui des banques ou qui des industries agrochimiques. Il n'y a aucune profession en France où son travail est si peu payé que le métier d'agriculteur, c'est clair.
Sans vacances et sans congé maladie.
Moi qui prends des vacances à la mer.
Pas moi.
Donc on descend au jardin alors hein.
Un mot encore.
Une question.
Ce sera la dernière.
Bien, allez-y.
Vous ne lisez jamais les livres que vous voulez.
Pourquoi faire? Premièrement, je n'en vois pas l'utilité. Deuxièmement, je n'ai pas le temps. Et troisièmement, c'est défendu.
Oui, bien sûr.
Hein? Évidemment, je suis heureux.
Alors, c'est le jardin ethno-botanique.
C'est un jardin qui est un peu différent des autres. C'est pas un jardin botanique avec juste des étiquettes. C'est les plantes qui racontent leur histoire.
Et le purin d'ortie dans tout ça, alors?
On en parle pas.
Ah bah si, justement, on est là pour ça. Donc il est utilisé à quelle fin? En quelle quantité?
Alors moi,
c'est le produit miracle?
Non, on peut pas. Le miracle, ça n'existe pas. Mais
non, c'est vrai.
Ouais. Non, moi je l'utilise dans toutes les situations de stress de la plante. Quand je vois que, quand par exemple il y a eu des mauvaises conditions météo, je sens qu'elles vont, souffrir. Et ben, de suite, je pense à l'ortie, quoi.
Alors où est-ce qu'il est?
Le purin?
Ouais.
On le cache.
On le verra tout à l'heure.
Ouais, on le sentira. Il sent bon.
Ah, on est au jardin avec Annie-Jeanne Bertrand. Alors, on dit, ouais, c'est sympathique, c'est chouette, c'est frais, c'est sain, etc. N'empêche qu'on commence à s'inquiéter quand même assez sérieusement sur l'impact sanitaire des pesticides. Et c'est un impact et c'est des effets. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. D'après une récente étude de la Commission européenne, près de la moitié des fruits, légumes et céréales consommés en Europe contiennent des résidus de pesticides et la Mutualité Sociale Agricole a lancé en 2005 la première, ça peut paraître bizarre, première grande enquête épidémiologique française sur le lien suspecté entre pesticides et cancer. Oui, il faut peut-être commencer à se poser des questions et peut-être que ces doux poètes de la nature avec leurs plantes ne sont pas des gens aussi archaïques que ça. Il se pourrait bien qu'ils soient à l'avant-garde de quelque chose.
Alors, on peut lire les étiquettes, hein. Euphorbe, sureau, consoude, prêle, fougère, Donc on voit effectivement qu'il y a, et orties bien sûr, je l'ai oublié, on voit effectivement que c'est toute une panoplie que le jardinier a à sa disposition. C'est pas uniquement le purin d'ortie.
Donc ce petit cabanon en bois là, c'est la pharmacie du jardin potager, c'est ça, hein?
Oh là là, j'imagine si la DSV vient là, ou la DGCCRF, qui vont s'en donner à cœur joie.
Il y a une vingtaine de bidons, hein, des bidons de 5 litres.
Tout en haut, tu as le purin d'ortie, en dessous, tu as la consoude, et tout en bas, euphorbe et suroyable.
Donc il serait a priori aussi interdit que le purin d'ortie,
ah
tous
ben
les
oui,
autres.
Oui. Hein. Alors, ortie, consoude, ça serait plutôt pour nourrir les plantes. Hein, l'ortie, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est feuilles. Hein. Alors que la consoude, ça sera pour tout ce qui est fleurs et fruits. Hein. Si tu veux, pour résumer, quand tu veux planter des tomates, au début, tu favorises la feuille avec l'ortie. Et quand tu vois que il va y avoir la mise à fleurs, tu passes à la consoude. Mise à fleurs, mise à fruits, et tu as beaucoup plus de fruits, plus costaud, plus simple, etc. Voilà. Et en bas, donc, sureau et euphorbe. Alors là, ça serait des répulsifs pour les campagnols, pour les insectes aussi. Donc, ce serait plus dans cette catégorie-là que tu peux les mettre.
On est vraiment chez les terroristes, quoi. Ils sont armés jusqu'aux dents.
Alors, on prend un bidon de purin, Dijane.
Ouais.
Ben alors, on va en mettre. Alors,
où est le labo clandestin du purin?
Ah ben,
le jardin, c'est un grand labo.
Alors, on approche du labo clandestin. Tu peux me décrire un petit peu là le.
Alors là, on a du purin d'ortie fait. Du purin d'ortie préparé, voilà.
C'est d'accord.
Pour faire un extrait d'ortie, c'est très simple. 1 kg de plante dans 10 litres d'eau. Vous laissez macérer jusqu'en fin de fermentation. La fermentation, on voit qu'elle est finie lorsqu'il y a un petit tapis de bulles qu'on aperçoit là, qui est très, très homogène, très dense. Lorsque ce petit tapis de bulles s'arrête, c'est que la fermentation est finie. Il faut filtrer très, très vite. Et ensuite, vous mettez 5-10% dans un arrosoir. Et après, vous donnez à boire à vos plantes.
Micromégas,
nous allons parler maintenant végétaux et plus particulièrement des orties, car vous ne le savez peut-être pas encore, mais il existe en France une association des amis de l'ortie. Son siège se trouve au sud de Saint-Gaudens, dans les Pyrénées, non loin des ours que l'on réintroduit depuis quelques temps. Alors on a dit récemment, la guerre de l'ortie est allumée.
Ce qu'on fait avec l'extrait d'ortie, c'est que là j'ai arrosé en fin de journée. Demain matin, je peux récolter mes épinards. C'est clair qu'il ne va rien rester de ce produit-là, et il ne va rester aucune molécule qui puisse présenter un inconvénient pour la santé. Alors que si je mets n'importe quel produit chimique dessus, eh bien, il faut que j'attende au minimum 48, 72, voire beaucoup plus pour certains produits avant de récolter les plantes. Tiens, ben ça y est, hein, voilà. Hein, donc voilà, je viens de mettre effectivement l'extrait d'ortie. Ben voilà, on voit les insectes qui reviennent. Ils viennent boire. Hein, il y a pas mal de mouches. Il y a quelques abeilles. À peine quoi, 2-3 minutes après l'épandage de l'extrait d'ortie. Alors quand on veut nous faire croire qu'effectivement ce produit est dangereux pour la nature et pour la santé, ça fait doucement rigoler quand même. Hein.
Donc effectivement, ils tombent par de mort, mais peut-être qu'ils ont raide sous, non, après avoir cet abreuvé de cette fermentation illicite.
Ah ouais, ça j'aime bien.
Tu connais?
Ah, je veux bien goûter, c'est quoi?
La stevia.
Oui, c'est étonnant.
C'est très sucré, c'est un pouvoir sucrant qui est très très puissant. Et ce qui fait que c'est un édulcorant végétal et que ça concurrence l'aspartame. Et tu vois le problème où il peut se situer aussi. C'est une plante qui a été en procès aussi, qui a été interdite.
Ah.
Les diabétiques peuvent en utiliser.
Sa commercialisation en plantes sèches et en tant qu'édulcorant est interdite en France, alors que bien sûr elle est en vente libre dans des tas d'autres pays. Mais effectivement, là encore, le lobby du sucre et du sucre édulcoré a fait pression pour que cette plante soit interdite. Alors là, on ne parle pas d'homologation, puisqu'on est dans le domaine alimentaire, mais effectivement, il y a une interdiction qui est uniquement le fait des lobbies qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver de stevia sèche pour édulcorer, pour sucrer nos préparations. Il faut la cultiver soi-même, parce que la seule faille de leur système répressif, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à interdire la multiplication par des pépiniéristes et la vente sur des salons ou sur des foires aux plantes, par exemple, par des pépiniéristes. Donc là, on arrive quand même à trouver effectivement de la stevia et à l'utiliser. Mais voilà, on pourrait aussi être dans l'illégalité avec ce type de plante.
Là, c'est les jardins courtois, les jardins de rencontre.
C'est ici, là?
Ouais, alors là, toutes les plantes que tu y trouves, elles ont une connotation amoureuse, quoi.
et on explique aux visiteurs qu'elle est. Quand on offre un bouquet, bon, il faut faire attention quand même parce que les plantes ont un message.
Mmh. Éviter les roses jaunes, par exemple.
Oui.
Pourquoi les roses jaunes
hein? Ben c'est cocufiage, les roses jaunes. Hein. La rose rose étant l'amitié, la rose rouge la passion, la blanche la pureté. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre langage de fleurs.
Ouais,
mais après, bon, ça c'est des langages, mais après il y a des élixirs d'amour, etc. Non, ou pas?
Ah oui, il y avait ça aussi, oui. Oui.
Bien sûr, le bûcher n'est pas loin. Hein.
Là, je ne vais pas plus loin, là.
C'est pire que le purin d'ortie, c'est pire d'appréhensible.
Sans doute, oui.
Et après, là, il y a, parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, je crois, mais la vue est splendide, quoi. On se retrouve là face à un paysage avec le Cagir qui est un très joli pic en face et donc un petit fond de vallée avec avec des arbres, avec des prés qui sont encore en place, avec enfin je crois que on peut pas trop en parler, il suffit de regarder quoi.
C'est le Piémont, c'est ça?
Si, on est encore dans le Piémont, ouais, on n'est pas encore dans l'étage montagnard, là, on est encore à la limite. Parce que le Cagir, il n'est pas dans la chaîne, il est à l'avant de la chaîne.
Alors, les plaques de roche, la forêt arrive jusqu'en haut. C'est en général un signe de différence entre Piémont et haute montagne après, où la roche est beaucoup plus présente. Là, c'est vert, quoi, c'est comme un volcan d'Auvergne, mais qui se dresse tel un pic. C'est ça?
Mmh. Ouais, c'est ce qui explique qu'on a un climat exceptionnel, hein. On a un microclimat ici. On a des plantes qu'on peut pas avoir dans la plaine plus bas.
D'accord, alors le climat exceptionnel fait que la luxuriance aussi des lieux ou c'est vraiment que le purin d'ortie?
C'est tout, il y a tout.
C'est la conjonction des deux choses.
Ah, c'est ça, oui. Ouais. Et puis l'amour qu'on a pour ton jardin aussi. Il y a des petits cochons là.
Donc, on a dit que c'était des cochons noirs.
Ouais, des gascons.
Des porcs noirs gascons.
Porcs noirs gascons.
Donc régulariser cela. Hein.
C'est sans doute au niveau des races porcines la plus vieille race qui soit, c'est-à-dire la plus proche du sanglier. Et c'est une chair extraordinaire, quoi. Quand on la mange, on a plus l'impression de manger du veau que du cochon.
Il était illégal aussi à un moment donné.
Alors, lui en particulier, je sais pas, mais je sais que certaines races locales, effectivement, anciennes, on a interdit à des éleveurs de les élever parce que, soi-disant, que génétiquement, elles venaient polluer les races officielles et en particulier les gros cochons large white qu'on élevait parce que, ben, au bout de 6 mois, ils faisaient déjà 100 kilos, quoi.
Alors là, c'est le four.
Voilà. Tu charges ici. Et puis au-dessus, donc tu as des plateaux qui tournent en briques réfractaires. Et c'est là qu'on faisait cuire les croustades. Quand on a fait les croustades il y a une dizaine d'années, on a arrêté ça. Les croustades du pays, des bonnes croustades avec une recette qui était très très ancienne.
C'est un gâteau de croustades, c'est ça?
Oh, tout, hein. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, des pommes, du beurre, du sucre, du rhum. C'est pas très diététique, mais c'est délicieux.
Donc ça fait longtemps que vous pratiquez la transmission de savoir comme ça qui devient illicite.
Oui, complètement. Ah oui, et puis
c'était récidiviste. Ah, après, la croustade, c'est le purin d'ortie.
Complètement.
Donc, bravo.
France Inter.
France Inter, il est 14h passé de 4 minutes. On va parler ortie avec Denis Chessou.
Aujourd'hui, donc, le purin d'ortie, nous en parlons avec nos invités. C'est plein de vertus pour le jardin, vous le savez, le purin d'ortie. Et puis, ce qui est merveilleux avec les orties, c'est qu'avec, on soigne aussi bien les plantes, bien sûr, mais on soigne aussi le jardinier. Eh oui, la soupe d'ortie de nos grands-mères, eh ben, elle est très très bonne. Alors que la soupe à l'herbicide homologué, hein? Vous en connaissez beaucoup, vous, des vendeurs de produits phytosanitaires qui se font un bol de bouillon après les restes de leur préparation?
Alors là, c'est la soupe d'ortie d'aujourd'hui. Alors, donc j'ai fait revenir un oignon. J'ai mis là-dessus à fondre mes têtes d'ortie. C'est uniquement les têtes, hein, tu vois, on les voit encore. Il n'y a pas du tout de tige. Hein. Tout ça dans de l'huile d'olive. Alors j'ai laissé mijoter à tout petit feu pendant peut-être 5 bonnes minutes. Après ça, j'ai ajouté quelques pommes de terre et du potimarron. Un peu d'eau, j'ai salé, j'ai laissé mijoter encore un bon quart d'heure. Et puis là maintenant, il n'y a plus qu'à mixer la soupe.
J'ajoute un peu de crème, 2 têtes d'ail.
L'ortie, tu la manipules à main nue?
Ah oui, oui, complètement. Oui.
D'accord, donc on s'habitue.
Je le sens un peu, hein, ça chatouille encore un peu les mains, mais bon, je trouve que c'est pas désagréable.
Mais il y a quand même au début, c'est pas simple, quoi.
Ah oui, c'est sûr, surtout je l'ai...
Après, on est vacciné, quoi, c'est ça, on se vaccine, on s'immunise.
On n'est pas tous égaux devant l'ortie. Il y a des gens qui ont une réelle allergie et pendant 2-3 jours, ils vont sentir la piqûre de l'ortie. Et puis il y a d'autres, comme moi, qui ont de la chance, quoi, qui étaient nés pour vivre avec les orties.
Changeons le cochon, voilà. Je sais que c'est une procédure sur une seule rime. J'écris souvent, il y en a deux pour l'imposture. J'espère que ça sera moins chiant. Changeons le cochon. L'endroit le plus sain sous l'azur où l'on peut voir pour 5 comptants, c'est une terre en bordure d'une maison où il y a des gens. Pas question de ces dictatures que je dénonce fermement. L'élevage en cantu sans mesure, la terre qu'on laisse à nos enfants. Voyons donc ce bel épicure prenant plaisir en cet instant. L'animal vit dans sa pâture où il bat aux gens présidents. Une boulette rose dans sa souillure, bateau balourd et bon vivant. Il se complaît dans sa posture et il sourit donc. Donc, viens-tu mourir. Les poils durs qui font sa coiffure le virilise comme l'éléphant. Il sait qu'il a une belle allure, mais moins son doute que le pan. C'est une vie sans grande aventure, pas de soucis et de tourments. Il vit entouré de peinture et s'en contrefou royalement. Sa perspective et son futur, c'est la saucisse des régiments. Le jambon rose, c'est de l'or pur sur la choucroute du diamant. Son corps, c'est donc de nourriture qui satisfait tout bon gourmand. Rien n'a jeté, pas d'épluchure, du tout bon pour petits et grands. Ah oui, je puis aussi vanter la pure, les petits lardons et leurs croquants, le plaisir fin que nous procure prosciutto crudo sous la dent. Le cochon. Ta blague pour les enflures, il fait rire les bêtes et méchants. Tout ça pour une raison obscure, comme si le porc vivait salement. Ses ignares pleins de moisissures oublient qu'il nous est ressemblant. Sa peau, ses yeux et sa structure en médecine sont référents. Il s'adonne bien à la luxure, mais il le fait en militant pour que sa descendance assure. Pas question d'être insignifiant, car madame est une créature au sein nombreux excitant. Il assure donc progéniture de gamins lisses et turbulents. Les gens qui vivent dans les ordures, tous les mâles propres et sourds, sont plus polis que les giclures qui le salissent publiquement. Voilà! Le cochon. En marge de cette littérature que l'on voit depuis trop longtemps, je tiens à faire une signature. Le Piggy est un prince charmant. Ouais. Et ce que je dis pour conclure, même si ça devient emmerdant, il ne pratique pas la torture et il ne tue pas pour de l'argent, ouais. Alors qu'on cesse toute censure, la cochonnerie est de tout temps. Ici je marque la rupture, le porc ne salit pas les gens. Et voilà, de ce chant je fais fermeture, qu'on entende bien mon argument. L'élevage en cantu sans mesure, la terre qu'on laisse à nos enfants. Je répète, l'élevage en cantu sans mesure, la terre qu'on laisse à nos enfants.
Voilà. Daniel Hélin, vous allez me demander quel est l'auteur de ce petit chef-d'œuvre qu'on vient d'entendre. C'est Daniel Hélin et le reportage auparavant a été signé Antoine Chao. Merci à tous, merci à Alain Baraton. Merci à Bernard et Annie-Jeanne Bertrand, à François Blanchard, Patrick Talon, Joël Mathurin, Nicolas Saint-Martin de Radio Païs et à tous. À lire donc le bouquin de Menacé, Purin d'Ortier et compagnie de Éric Petiot, Bernard Bertrand et Jean-Paul Collart aux éditions de Terran. Et puis, eh bien, j'ai à vous dire que toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et je vous signale ce samedi 30 septembre à la Bourse du Travail de Saint-Denis au métro Porte de Paris, 9 rue Génin à Saint-Denis, de 9h30 à 19h. Se tiendront les états généraux pour une information et des médias pluralistes et un grand nombre de questions fondamentales concernant les médias seront agitées et débattues ce jour, ce samedi donc, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Comment garantir les droits d'informer, les droits à l'information contre toutes les tentatives politiques et économiques de les confisquer? Comment garantir l'essor des médias associatifs, etc.? Comment préserver et refonder le service public de l'audiovisuel, par exemple? Ça fait partie des questions qui seront débattues états généraux pour une information et des médias pluralistes, un chantier auquel nous participerons au cours de cette saison de Là-bas si j'y suis. Toutes les informations sont disponibles, je l'ai dit, sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Xavier Lévesque. C'est Yann Chouquet et Coy Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur dans le numéro est 01 56 40 37 37, et l'email de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com.